on a un peu de retard, mais on va quand même prendre le temps d'accueillir et je les remercie d'avoir accepté de participer à cette dernière table ronde de la journée, donc intitulée Bordeaux Métropole, territoire à énergie positive en 2050. Quelles utopies nécessaires avec des guillemets? Quelle place pour les citoyens et les réseaux? Ce qui est intéressant, c'est que ça fait, il y a quelques échos déjà à l'intervention de Anne Dalmasso. Donc Mathilde Tessier, qui est doctorante à l'École nationale supérieure des mines, au CMA pour Centre de mathématiques appliquées, en sciences et techniques de l'information et de la communication. Nicolas Rayard, chef de projet au Shift Project sur les réseaux électriques à l'horizon 2050. Donc on a la même date en cible. Gérard Loalves, autre local de l'étape, directeur maîtrise d'ouvrage réseau de Régas Bordeaux, et Jean-Pierre Williot, donc professeur d'histoire contemporaine à la Sorbonne. Alors, propos introductifs donc par rapport à ce titre, territoire énergie positive en 2050. Il y a eu deux types d'exercices menés par Bordeaux Métropole depuis le début de l'actuelle mandature. Je vais commencer par le plus récent qui est Bordeaux Métropole 2050, rêver, penser, agir. Donc ça a donné lieu à un certain nombre de participations citoyennes, élus, industriels, représentants d'associations. Il y a une véritable expertise de Bordeaux Métropole depuis un certain nombre d'années et de la ville de Bordeaux, la fusion des services ayant eu lieu. La responsable de toute cette dynamique, là, en tout cas de la publication, c'était Madame Larue-Charlu, à la direction de l'urbanisme. Donc un certain nombre de consultations avec un camion du futur, vous pouvez le voir sur la droite, qui a circulé sur l'ensemble des communes, avec des questions qui sont pas, par leur nature même déjà un peu structurantes, je vais le dire comme ça. Énergie fossile ou pas, nucléaire ou pas, est-ce qu'on peut s'en passer si on n'a pas trouvé mieux? Est-ce qu'on peut utiliser aussi l'énergie marine et les hydroliennes qui sont au pied du pont de pierre? Donc ça, c'était un premier exercice qui a donné lieu, in fine, c'est toujours difficile de faire des synthèses, mais à quatre scénarios. Donc la métropolisation continue et s'autorégule, l'exigence décarbonée règle la ville, l'adjectif décarboné est intéressant. J'ai fait un mauvais copier-coller là, j'ai mis l'équilibre des territoires, fait la vie, c'est le scénario numéro 4, on n'aura pas le scénario numéro 3. Il y a eu aussi, c'était intéressant dans la manière même, des scénarios impertinents, structurés et travaillés par le forum urbain, sur la Matropolix, le port de la thune, la rétropole d'avenir et survivopole. Évidemment, ils poussent certains curseurs volontairement loin, on est plus dans la dystopie que dans l'utopie. Et donc le scénario 2, ce qui est intéressant, c'est de voir que, en termes de politique, les exigences du développement durable, de l'économie des ressources et de la lutte contre le réchauffement climatique l'emportent sur toutes les autres, d'un point de vue politique public. Et la survivopole, je parlais de dystopie, il y a un bug informatique, on évoquait la digitalisation de beaucoup de choses. Donc un bug informatique en 2032 qui paralyse l'ensemble des services et infrastructures. Et c'est écrit pas en gras, mais quand même, il y a une petite catastrophe, entre guillemets, à la centrale du Blayé, qui fait que, globalement, tout le monde veut revenir à un passé idéalisé. Alors, autre exercice participatif et très structuré, l'exercice donc de plan d'action pour une haute qualité de vie et un territoire durable. Donc c'est aussi, de la part de la métropole de Bordeaux, en réponse, on va dire, ou pour prendre ses responsabilités et devenir un territoire à énergie positive à l'horizon 2050. Donc je ne détaille pas ça, puisque ça a été très bien expliqué par Anne Dalmasso. On voit aussi que là, c'est le clair dans son document à destination des collectivités. La transition énergétique est une chance. Donc il y a aussi tout un outillage pour accompagner les collectivités qui veulent se lancer dans cette démarche. Ce qui est intéressant dans le cadre programmatique qui est complété dans ce document qui est disponible en ligne, je vous ai mis en petit là le lien, l'URL, donc le plan d'action pour un territoire durable à haute qualité de vie de Bordeaux Métropole, il y a un cadre programmatique 2017-2050 complété d'un plan détaillé d'action qui en fait reprend le plan climat, énergie et l'agenda 21 pour 2017-2022. Donc c'est à la fois une projection à l'horizon 2050 et des premières actions très concrètes, très détaillées avec des budgets. Voilà, et donc évidemment, on voit trois orientations, plus le travail des plus-values que je ne détaillerai pas, mais la première, c'est bel et bien d'accélérer la transition énergétique, La deuxième, c'est de préserver et valoriser les 50% d'espaces naturels et agricoles. Et la troisième, c'est solidarité territoriale et bien-être. Donc les hommes, la nature et la transition énergétique. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu une forme de prise de risque, pour moi, sur le fait de mettre des chiffres. En 2010, il y avait 14 gigawattheures de consommation à l'échelle de la métropole. Et l'ambition pour réussir à être à énergie territoire énergie positive en 2050... Comment ? À l'échelle de la métropole, terrain ? Moi, j'ai lu giga. Mais... Bon, d'accord. Donc, parce que là, après, il passe de 14 000 à 8 000. Donc, ça fait moins 40%. Il faut réussir, en fait, trois choses. Moins 40% sur les consommations d'énergie. C'est quand même assez énorme. Je dis pas que... Moi, je souhaite qu'on y arrive. Hein, mais c'est un premier gros enjeu. Le deuxième, c'est de passer de 3% de production d'énergie renouvelable à 15% production sur le territoire même de la métropole. Et ensuite, faire la jonction, je dirais, entre les deux, avec de l'achat de gigawattheures renouvelables sur un territoire autre. Est-ce qu'il est voisin? Est-ce qu'il est lointain? Donc on va discuter de ces enjeux d'échelle. Et une formule qui m'a intéressé particulièrement dans ce plan d'action, c'est la notion de contractualisation d'une solidarité énergétique territoriale. Donc il y a un dialogue entre territoires. Anne Dalmasso posait la question de la juxtaposition de territoires autosuffisants. Voilà. Est-ce que c'est des nouvelles formes de contractualisation et de solidarité avec un prisme énergétique? Voilà. Donc, question, il y a un certain nombre de choses qui ont été votées hein, en 2016. Avec des travaux qui ont démarré évidemment depuis, hein, plan détaillé. Pour finir, d'introduire et de laisser la parole ensuite à Nicolas Rayard sur l'exercice mené depuis 2018 par le Shift sur projection 2050, je voudrais revenir à la conclusion de François Caron, professeur à la Sorbonne à l'époque, conclusion du quatrième colloque de l'Association d'histoire d'électricité de France en 1987, où il disait finalement, après plusieurs jours de débat, il y avait un point d'étape qui était fait sur l'électricité et ses consommateurs. Il disait, au risque de simplifier, il nous semble possible de regrouper autour des trois thèmes dominants, celui des utopies nécessaires, celui de la construction de la demande réelle. Rémi l'a rappelé, hein, l'électricité, c'est offre égale demande à tout instant. Et celui des contraintes d'opération ou d'exploitation. Donc on va voir, du coup, les contraintes, ça veut dire, c'est beaucoup d'argent, c'est beaucoup de temps. Et quand il y a des décisions d'investissement qui sont prises, c'est forcément structurant, d'une certaine manière, pour un certain temps. Mais alors, peut-être la formule la plus énigmatique, c'est celle des utopies nécessaires. Donc, je vais vous lire juste ce qu'il en disait au départ. Trois types de discours prospectifs nous ont été présentés donc, pendant ce colloque. Le discours visionnaire des auteurs de science-fiction, le discours à prétention scientifique des vulgarisateurs et le discours à portée pratique des conseillers en bricolage, qu'on appellerait aujourd'hui le « do it yourself », quoi. Or, ce ne sont pas nécessairement les prévisions les plus proches de l'imaginaire qui se révèlent les plus inexactes dans le long terme. La science-fiction a peut-être de meilleures vertus prévisionnelles que la vulgarisation pédante. Donc, voilà, je ne vais pas plus loin que ça, mais ce qui semble intéressant, et j'en veux pour preuve l'annonce par la ministre des Armées il y a quelques mois, quelques semaines, la Florence Parly, du fait que pour cadrer, on va dire, la projection de la France d'un point de vue... armement et présence dans le cyberespace notamment, ils vont créer un groupe de Red Team, en bon français, qui rassemble notamment des auteurs de science-fiction, donc pour aider la France à se projeter très officiellement et donc avoir comme hypothèse structurante réussie une capacité à embrasser les futurs et les possibles qui ne relèvent pas que du domaine de la politique ou de l'ingénierie, pour le dire simplement. Donc voilà un peu le cadre, et l'idée c'est de voir ensuite avec nos participants à cette table ronde comment est-ce que on peut à la fois se poser la question de l'échelle temporelle et spatiale pour faire de la prospective. Est-ce que c'est de la vision? Est-ce que c'est du scénario? Comment est-ce que ça se modélise? Comment est-ce qu'on peut regarder, c'est parfois un peu cruel, parfois drôle, les exercices de prospective passés? Qu'est-ce que ça donne aujourd'hui? Est-ce qu'on y est? Est-ce qu'on n'y est pas? Voilà. Et après, avoir aussi la vision croisée avec des industriels qui se veulent réalistes, en tout cas, qui ont, de sa manière, on l'a vu avec la présentation d'Alexandre Fernandez et Rémi, ils ont la main, d'une certaine manière, sur la réalité de ce qui est fait. Et donc, il y a un côté structurant par rapport aux attendus. Voilà. Donc, je cède la parole à Nicolas pour qui présente ce qui est en cours et qui sera bientôt rendu public. Donc merci pour ce préalable sur l'exercice avant sa restitution publique en novembre. Si je vais.
Allô. Ouais. Bonjour à tous. Merci déjà pour l'invitation. Je vais vous présenter quelques résultats donc, d'un projet qui n'est pas complètement fini pour l'instant. La fin de ce projet, ce sera pour novembre, début novembre. C'est un projet qui a été lancé il y a un peu plus d'un an et demi au sein du Shift Project. Donc, le Shift Project, c'est un think tank qui réfléchit à la transition énergétique. Donc, on cherche à éclairer et influencer le débat sur la transition énergétique. Ce projet porte sur la prospective en transition énergétique et donc je vais vous raconter un petit peu quelle était la démarche de ce projet et j'ai extrait quelques résultats de ce projet en lien avec justement les interactions entre les différents territoires et les échelles entre les échelons du territoire. Alors on est parti d'un contexte qui est assez simple qui est qu'il y a beaucoup d'études prospectives qui sont sur la place publique, qui ont été publiées, des études prospectives en transition des systèmes énergétiques et électriques. On s'est un peu focalisé sur les systèmes électriques, sur la transition des systèmes électriques. Évidemment que le système électrique n'est pas isolé, on est obligé aussi de regarder le système énergétique dans son ensemble. Donc là, vous voyez apparaître un ensemble d'études dont on s'est inspiré, en tout cas qu'on a pris en compte dans notre projet. Donc, sur la ligne du haut, vous avez des études prospectives à territoire national, puis sur la ligne du milieu, d'autres pays européens ou bien l'Union européenne complète, et enfin sur la ligne du bas, des études au territoire et le monde entier. Donc vous voyez qu'il y a un grand nombre d'études, il y a encore plus de scénarios, puisque dans chaque étude, il y a un ou plusieurs scénarios qui sont développés, et on pourrait se dire, a priori, que c'est plutôt une bonne chose, puisque chaque étude va nous apporter des informations sur la transition énergétique. Et donc, pour prendre de meilleures décisions, il est mieux d'avoir plus d'informations que moins. Donc, a priori, c'est quelque chose de positif. Alors, cependant, il y a deux niveaux de difficulté. Nous, quand on a pris connaissance de ces différentes études, on a eu un regard critique. Il y a deux niveaux de difficulté. Il y a un premier niveau qui apparaît quand on prend une étude de manière individuelle, c'est-à-dire typiquement... Des journalistes vont pouvoir se saisir d'une étude, des décideurs politiques vont pouvoir se saisir d'une étude en particulier, des citoyens intéressés vont pouvoir le faire, et de nombreuses questions vont apparaître à ce moment-là. Quelle méthode a été utilisée? Quelle approche globale? Les hypothèses qui ont été prises? Quels impacts concrets de la transition proposée ou des transitions proposées sur les différents acteurs qui vont lire ce scénario, qui peuvent être intéressés? Et en fait, quand on cherche à répondre à ces différentes questions, ben on s'aperçoit que c'est pas forcément très transparent, ou bien la réponse n'est pas très claire parce qu'elle est dispersée au sein du rapport, donc c'est parfois difficile de faire la part des choses. Et au final, quand on cherche à jauger la crédibilité de l'exercice, ben pas facile de répondre. En fait, on va plutôt faire un acte de foi envers celui qui a fait l'étude. C'est pas facile d'être convaincu à 100% par des études. Puis un second niveau de difficulté qui est lorsqu'on compare plusieurs études entre elles. Et alors ça, ça a été fait lors de la construction de la loi sur la transition énergétique en 2015. On a demandé à un panel d'experts de lire les études qui avaient été publiées sur le périmètre français, sur le périmètre national, et de faire un bilan critique de toutes ces études. Et en fait, là aussi, c'est difficile à faire, c'est même quasiment impossible, parce que les études se posent des questions différentes, elles ont des périmètres géographiques légèrement différents, elles ont des périmètres temporels qui peuvent être différents, des périmètres sectoriels qui sont différents, et puis elles ne regardent pas forcément les mêmes impacts de la transition. Donc deux grands niveaux de difficulté. Partant de là, nous on s'est donné comme objectif d'essayer d'améliorer la qualité du débat, on va dire, et donc on a voulu produire un guide méthodologique à destination des producteurs d'études prospectives et donc regroupant une centaine de recommandations. Et donc là, on est sur la fin de ce projet. Comment on a construit ce référentiel? Là, je passe très vite. En gros, on a fait des consultations d'experts pour définir une liste de sujets importants auxquels il faut répondre, sur lesquels il faut se positionner quand on fait une étude de prospective en transition. On a ensuite fait des interviews avec les différents experts sur ces sujets, fait de la recherche, de la revue de littérature, et enfin organisé des ateliers collaboratifs dont les derniers ont eu lieu en juin, lors desquels on a fait une présentation de nos résultats quasi définitifs, on va dire, et ensuite on a fait discuter les experts autour de ces résultats, et là on est en train de réintégrer ces discussions dans le rendu final. Alors de ça, j'ai extrait quelques points qui peuvent intéresser le débat. Déjà, on a dû se demander ce qu'était une étude prospective, donc on repart des bases. Alors en théorie, ce qu'on attend dans une étude prospective, et quand on en parle aux gens, c'est ce qu'ils attendent et c'est ce qu'ils pensent être une étude prospective, c'est un recueil de scénarios. Donc dans les études prospectives, il y a toujours plusieurs scénarios qui sont comparés pour voir lequel serait le meilleur selon différents critères. C'est des scénarios de transition énergétique qui nous intéressent là, et donc ça nous permet de tirer des connaissances pour alimenter un débat et pour pouvoir prendre des décisions à la fin. En pratique, une étude prospective, c'est certes un outil d'information, donc ce qu'on attendrait, mais c'est aussi un outil d'influence sur un débat particulier. Donc, et ça, c'est un point qui est très important, c'est-à-dire que quand on se met à lire une étude prospective, il faut d'abord savoir qui a rédigé l'étude prospective, dans quel contexte et à destination de qui. Et là, déjà, souvent, on sait à peu près l'histoire qui va être racontée et quel scénario va être le meilleur, etc. Alors, si on rentre dans le détail, qu'est-ce qu'un scénario ? Un scénario, c'est l'évolution, c'est la description de l'évolution d'un système qu'on a appelé, nous, le système central. Et le système central, souvent, c'est le système énergétique, mais ça peut être des sous-systèmes du système énergétique. Donc, il peut y avoir des focus sur le système électrique ou sur le système gazier. Et ce système central, il évolue, et ce faisant, il impacte, ou en tout cas, il interagit avec d'autres systèmes qui l'environnent. Donc, on appelle ça les systèmes environnants. Donc, il y a la société, c'est-à-dire comment les gens réagissent à cette transition, comment ils l'alimentent, comment ils y participent, combien d'énergie ils consomment par leur comportement de consommation. Vous avez un autre système environnant qui est l'environnement. Donc là, ça va être tous les impacts environnementaux, le réchauffement climatique, la gestion de l'eau, les sols, les déchets, etc., la biodiversité. Et enfin, il y a des interactions avec le système économique. Donc là, tous les macro-indicateurs, tous les indicateurs macroéconomiques. Et également, on peut penser à l'emploi, voilà, comment l'emploi doit changer pour dans une transition. Alors, ce sont des flèches qui vont dans les deux sens. Ce n'est pas des impacts, ce n'est pas le système énergétique impacte les autres systèmes. Il y a aussi des feedbacks, il y a aussi du retour là-dessus. Donc, on pense facilement au réchauffement climatique. Si je change mon système énergétique, j'émets plus ou moins de gaz à effet de serre. Et en retour, dans quelques années, je vais avoir plus ou moins de dégâts sur mon système énergétique. Donc, il faut bien voir qu'à chaque fois, ce sont des interactions dans les deux sens. Pareil pour l'économie, si on pense au prix, voilà, si je construis tel système électrique, peut-être que les prix, peut-être que ça va être plus cher l'électricité, donc ça va avoir tendance à baisser la consommation, et donc ça va aussi impacter le système électrique. Donc voilà, ce sont bien des flèches à deux sens. Et enfin, il y a ce qu'on appelle les conditions limites. Alors ça, c'est très dépendant du modèle qui est utilisé pour décrire l'évolution du système énergétique. Donc les modèles sont des modèles informatiques qui vont, pour faire simple, essayer de donner une cohérence interne à l'histoire qu'on raconte, notamment au niveau des joules, de l'énergie, des kilowattheures. Et ce modèle, il a besoin qu'on le borne, il a besoin qu'on lui donne des conditions limites pour que le système énergétique puisse effectivement évoluer dans l'histoire. Et ça va être des conditions, en fait, sur l'économie, sur la société, sur l'environnement. Alors là, je les ai un peu répertoriés. Ça, ce sont les conditions limites qu'on va trouver classiquement dans les études prospectives. Et alors, en les balayant, c'est intéressant parce que justement, ça pose souvent des questions d'interaction avec les voisins, puisque moi, j'étudie un système central et en fait, je suis obligé de poser des conditions sur ce que font les autres pour voir comment le mien va évoluer. Et puis aussi des questions d'échelon de gouvernance. Donc, je vais en balayer quelques-uns. Par exemple, si je prends la situation macroéconomique, moi, si je me focalise sur la métropole de Bordeaux, il est évident que la situation macroéconomique à l'échelle de la France va fortement influencer celle de Bordeaux, et vice-versa d'ailleurs. Mais c'est-à-dire que si en 2050, j'imagine qu'en France, il y a eu une hausse de PIB fabuleuse et que tout le monde est deux fois plus riche, il y a beaucoup de chances que ce soit pareil sur la métropole de Bordeaux. Donc ça va définir, ça va cadrer l'activité sur ma zone géographique. Si je prends les politiques, alors évidemment, là, il va y avoir les différents étages de politiques possibles. Donc si je me focalise sur la métropole, il va y avoir certains leviers qu'elle peut activer. Mais il va falloir prendre des hypothèses sur ce qui s'est passé à l'échelon national en 2050, si je veux comprendre ce qui se passe dans ma métropole. Si je regarde la démographie et les modes de vie, c'est-à-dire comment les gens vont consommer, ça va peut-être dépendre de l'attractivité relative des différents territoires autour du mien, et donc de qui va vouloir venir s'installer dans la métropole, et donc comment ces gens-là vont se comporter, avec quelle culture, etc. En termes d'import, évidemment, ça c'est un point clé. C'est-à-dire, est-ce que dans mon périmètre, j'ai suffisamment de ressources pour faire mon plan? Est-ce que je vais importer, exporter? Et ça, que ce soit au niveau des matériaux, des matières premières, mais des matières premières matérielles ou énergétiques. Et puis, un dernier point qui me semble intéressant d'aborder, c'est celui du périmètre d'évaluation. Donc, quand on essaye d'estimer les impacts de l'évolution du système énergétique sur les systèmes environnants, il faut se donner un périmètre d'impact. Donc, souvent, les scénarios vont se donner un périmètre de description, un périmètre descriptif où ils racontent l'histoire de telle zone géographique. Là, par exemple, ce serait l'Union européenne. Cette zone géographique, elle consomme et elle produit, donc ça génère des impacts, mais elle importe aussi certains biens et services, et la production de ces biens et services a généré des impacts ailleurs, et elle exporte cette zone géographique. Et là, il y a deux grandes approches, on va dire, pour mesurer les impacts de mon scénario. Soit je me focalise, c'est ce qu'on appelle l'approche territoriale, soit je me focalise donc sur le territoire et je regarde que ce qui se passe dans mon territoire, ou soit je vais utiliser une approche empreinte, c'est-à-dire que je vais retirer de mon bilan territorial tous les exports, parce que ça va servir à d'autres gens, et par contre je vais intégrer les impacts de la production qui est importée. Donc je réintègre au niveau du consommateur européen, là, je réintègre les impacts qu'il a générés parce qu'il a fallu produire ses biens et services. Et donc, on voit qu'en fonction des deux approches, il faut, dans les deux cas, communiquer avec les territoires voisins. Dans le premier cas, donc si je définis mes impacts juste sur mon territoire, il faut bien que je m'assure que tout ça soit cohérent avec si mon plan, moi, c'est de baisser les impacts de temps, il faut que je vérifie que ça ne va pas impacter ce qu'avait prévu le voisin. Parce que lui, il avait prévu que je fasse autre chose. L'approche empreinte, elle, c'est-à-dire que je vais prendre en compte, je vais dire que ma consommation change chez moi. Donc par exemple, je vais dire, je veux respecter une baisse de temps en réchauffement climatique, en émission de gaz à effet de serre. Donc je vais éviter d'importer des produits chinois, par exemple, parce qu'ils sont produits au charbon. Dans ce cas-là, il faudrait se mettre d'accord avec la Chine que elle n'avait pas prévu justement d'exporter de plus en plus. Donc dans les deux cas de comptage, il faut toujours savoir ce que font les autres et se mettre d'accord. Voilà, donc si le sujet vous intéresse, la conférence finale, on va essayer de présenter plus largement tous les résultats, ce sera le 7 novembre à Paris. Merci pour votre attention.
Merci Nicolas. Après cette vision transversale, on va entendre Mathilde de la Fédérité, son travail à elle, que je qualifierais avec évidemment tous les défauts en profondeur sur la méthodologie elle-même et les hypothèses et les limites qu'il faut savoir se donner ou pas sur la manière d'aborder l'avenir.
Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup pour l'invitation dans un domaine que je ne pensais pas côtoyer pendant ma thèse, vu que je ne suis pas du tout historienne, mais je suis ingénieure et économiste. Et je travaille au Centre de mathématiques appliquées sur la question de la modélisation prospective. Donc finalement, c'est un peu l'étape qui mène aux différents scénarios que Nicolas a pu présenter juste maintenant. Donc, je voudrais revenir rapidement sur une différence qui est pour moi essentielle quand on fait de la prospective. C'est la différence entre la prospective et la prédiction. C'est-à-dire que la prédiction, c'est un peu comme si on prenait une boule de cristal et on peut dire qu'en 2050, on va avoir tel mix énergétique. La prospective, c'est finalement une anticipation de tous les futurs possibles. Donc la question de la crédibilité d'un scénario, pour moi, n'a pas forcément lieu d'être parce que ça se base sur un certain nombre d'hypothèses. Et donc, ce qui est important, c'est la différence d'approche plus que le résultat final, parce que c'est finalement un guide pour les décideurs politiques et différents types d'acteurs. Et ce que ma directrice de thèse, Nadia Maizy, aime bien dire quand on parle des différences d'approche, c'est que quand on fait un scénario de modélisation prospective, c'est important de savoir d'où on part et qui on est quand on parle, parce que finalement, quand on va présenter nos différents scénarios, c'est on met un peu de soi dans les modèles en imaginant différents types d'hypothèses. Et par exemple, l'objectif qui a été décrit pour ces différents scénarios, c'est résoudre la question de la crise climatique. Mais si on regarde un petit peu historiquement, la prospective, c'est à la base, ça vient du rapport du Club de Rome sur les limites à la croissance. Donc c'était vraiment une interrogation de la croissance en tant que telle et quelles prévisions on peut faire si on continue sur nos modes de consommation. Et puis il y a eu une deuxième période sur la prospective qui a été de répondre au choc pétrolier de 1973, et puis aujourd'hui, effectivement, la plupart des études prospectives se concentrent sur trouver une solution à la crise climatique, et donc en essayant de construire des scénarios de décarbonation à l'horizon 2050, et maintenant on commence aussi à travailler à l'horizon 2100 et à différentes échelles spatiales. Donc moi, je travaille avec un modèle qui s'appelle TIMES, et donc qui est un modèle technico-économique. Donc en fait, si on reprend les tableaux de ce matin qui décrivaient l'approche systémique, nous, c'est plutôt cette approche-là qu'on va utiliser, c'est-à-dire qu'on va avoir une description technico-économique du système énergétique actuel et une description des demandes par secteur énergétique et après on ajoute des potentialités de nouvelles technologies qui pourraient apparaître et une projection de la demande à l'horizon temporel choisi, et on essaye d'optimiser l'équilibre économique, enfin de faire une optimisation économique en termes de coût de la transition qui nous donne le futur système énergétique par étape. Ça fait qu'on peut tester avec nos modèles différents outils économiques, différentes technologies et différents scénarios de demande. On peut tester des scénarios de croissance de la demande ou même de décroissance. On a des travaux au laboratoire qui ont été faits sur la décroissance il y a quelques années. Donc voilà, il y a plein de potentialités. Et moi, ce qui m'intéresse, c'était la question de l'acceptabilité sociale. Donc, par exemple, dans les outils qu'on peut utiliser dans les scénarios, il y a un outil qui s'appelle la taxe carbone. Et on a pu constater en novembre dernier, ce qui correspond heureusement au début de ma thèse, qu'on avait eu quelques soucis d'acceptabilité sociale au niveau de la taxe carbone, puisqu'on a vu des gens munis de vêtus de gilets jaunes sur les ronds-points, et ça dure encore aujourd'hui. Et je pense que ça a accompagné le début de ma thèse. Et comme cette semaine, la Cour des comptes a remis la taxe carbone dans l'actualité, ça a été un petit peu une joie pour moi d'entendre le mot acceptabilité partout. Je me suis dit que je ne m'étais pas trop trompée de sujet de thèse. Donc, l'acceptabilité, c'est un truc qui est très très compliqué à mettre dans un modèle de prospective, parce que le modèle Times est essentiellement quantitatif. C'est-à-dire que moi, je travaille avec des tableurs Excel toute la journée, et je les donne... J'ai des logiciels qui font l'interface, mais je travaille avec des tableurs Excel et je récupère en résultat des tableurs Excel. Donc j'essaye de faire des graphes, etc. Mais pour modéliser un phénomène sociétal ou social, c'est un peu compliqué. Et c'est un peu l'objet de ma thèse. Donc je me suis intéressée justement à cette question d'acceptabilité sociale toute cette année. Et c'est un phénomène qui est assez complexe parce qu'il est très divers. Et on peut voir par exemple dans la littérature que c'est essentiellement des gens qui vont étudier un projet spécifique sur une technologie spécifique dans un pays spécifique. Et donc c'est du coup, pour avoir une généralité à impliquer dans un modèle, c'est compliqué. Donc j'ai pu réfléchir à une cartographie où j'ai recensé tous les articles, c'est un peu présomptueux de ma part, mais un certain nombre d'articles qui parlaient de ces questions d'acceptabilité sociale. Et en fait, on peut retrouver des zones géographiques. Et donc là, ce que j'ai commencé à faire, c'était de voir si la cartographie correspondait à ce que Times me donnait. Et donc je me suis, par exemple, là, j'ai travaillé sur la question de l'Europe, sur la zone de l'Europe de l'Ouest, qui est spécifié dans Times, et où j'avais par exemple beaucoup d'articles sur la question de l'éolien, où on a beaucoup ce phénomène de not in my backyard, qui est que les gens veulent bien de l'électricité renouvelable, mais si c'est à côté de chez eux, c'est plus compliqué. Et en fait, je me suis rendu compte en faisant tourner mes modèles que j'avais énormément de solaire. Donc du coup, c'est un peu le futur de ma thèse, c'est de comprendre pourquoi il y a autant de solaire et pourquoi c'est un truc qui pose pas problème, mais qui peut quand même poser des problèmes au niveau d'autres acteurs que les citoyens. Donc on a parlé ce matin de l'importance de la multidisciplinarité, et du coup c'était pour moi intéressant de partager. C'est déjà cette jonction entre les sciences sociales de l'énergie et les prospectivistes à un public d'historiens, puisque c'est des approches différentes. Et donc j'espère que ça pourra nous donner lieu à plein d'autres collaborations par la suite. Merci de votre attention.
Merci pour ces présentations introductives qui permettent de vraiment bien contextualiser. Pour finir, peut-être le tour de table, puisque tout le monde ne s'est pas exprimé encore, on va passer en mode question-réponse. Là, peut-être une première question vers Géraldo Alves pour la vision industrielle, mais il ne faut surtout pas qu'elle soit réductrice sur... Comment est-ce que, on l'a vu hein, dans l'histoire locale à Bordeaux sur le développement des réseaux de gaz ou d'électricité, c'est toujours du temps long, beaucoup de négociations, de controverses. Comment est-ce qu'on arrive malgré tout à tenir compte des exercices prospectifs qui soient menés de manière autonome ou partagée, voilà, pour se projeter d'un point de vue réalité des investissements et des travaux?
Alors, bonjour à tous. D'abord, je voulais préciser que je m'exprimais au nom de Régas Bordeaux, qui est une société qui est filiale en fait de la société Bordeaux Métropole Énergie, qui est, on va dire, la descendance de ce qui a été présenté tout à l'heure, l'ancienne régie municipale du gaz et de l'électricité de Bordeaux. aujourd'hui, donc c'est la suite logique. Bordeaux Métropole Énergie est le groupe qui gère en fait quatre filiales. Gaz de Bordeaux, fournisseur d'énergie, de gaz et d'électricité, bientôt. Régaz Bordeaux, donc le gestionnaire de distribution de gaz, sur plus de 3400 km de réseau et plus de 225 000 clients sur 45 communes, comme l'a dit tout à l'heure Rémi. Ensuite, Mixener, qui est aujourd'hui spécialisé dans les réseaux de chaleur, qui aujourd'hui opère deux réseaux au nord et au sud de Bordeaux, et également Neomix, qui est une société qui va s'attacher à produire des énergies renouvelables, que ce soit dans le gaz, au travers du biométhane, l'injection de biométhane, production de biométhane, et également l'électricité renouvelable. Alors, Bordeaux Métropole, territoire à énergie positive en 2050, j'aurais rajouté à énergie positive en 2050 et décarboné aussi, parce que c'est une boutade, mais je pense que la Russie aujourd'hui est un territoire à énergie positive. Sauf que, puisque elle produit plus d'énergie qu'elle n'en consomme. Le seul souci, c'est qu'effectivement, ce sont des énergies fossiles, le pétrole et le gaz. S'il y avait dans les sous-sols de la métropole bordelaise des huiles de schiste ou du gaz de schiste, on aurait pu éventuellement l'exploiter, on aurait pu être territoire à énergie positive, mais on ne répondait pas aux critères du réchauffement climatique. Voilà. Bordeaux Métropole Énergie est un outil qui a été voulu par la métropole bordelaise. Elle va servir en fait justement à cet objectif. Alors est-ce qu'il est ambitieux? Sûrement. Est-ce que c'est une utopie? Je ne sais pas. Comme on l'a vu dans le graphique, Cyril, que vous avez présenté, donc il y a d'abord, pour réussir ce pari, parce que ça reste quand même un pari, il faut réduire de manière drastique les consommations de gaz, les consommations d'énergie, pardon. Et ça commence bien sûr par les consommations de gaz. On voit sur le graphique que l'objectif, aujourd'hui on consomme en gros 14 TWh, 14 000 gigawattheures d'énergie. L'objectif, c'est de tendre effectivement sous la barre des 10 TWh, hein, un peu plus aux alentours de 9 TWh. Et cette baisse des consommations d'énergie, ça commence d'abord par la recherche d'efficacité énergétique, ça commence par l'amélioration des enveloppes des bâtiments. Et je ne parle pas des bâtiments neufs, puisque la réglementation, pour le coup, et la dernière en l'occurrence, la RT 2012, réglementation thermique 2012, prévoit effectivement un plafond de consommation, et sur le territoire de Bordeaux Métropole, il s'agit de 45 kWh au mètre carré. Et la prochaine réglementation va sûrement commencer à parler de bâtiments énergie positive, c'est-à-dire des bâtiments qui consomment moins d'énergie qu'ils n'en produisent. En tout cas, on peut penser qu'ils seront à 0 kWh à minima 0 kWh le mètre carré. Et donc ça commence par effectivement l'amélioration des enveloppes de bâtiments, des bâtiments existants donc, et non pas ceux qui sont construits actuellement. Et ça, c'est pas une mince affaire. Lorsqu'on voit le parc de bâtiments, notamment privés, je pense aux copropriétés sur le territoire métropolitain, c'est un sacré challenge. Et également aussi les maisons individuelles. Ça passe aussi par une recherche d'efficacité en termes d'équipement. Les appareils qui aujourd'hui utilisent que ce soit l'électricité ou le gaz doivent être encore plus performants. Ils l'ont déjà été, hein, pour citer les chiffres. Pour ce qui concerne le gaz, il y a 15 ans, Régaz, ou à l'époque Gaz de Bordeaux, transitait 5 TWh, 5000 gigawattheures de gaz. Aujourd'hui, on transite 4000. Et il y a 10-15 ans, on avait environ 210 000 clients. Aujourd'hui, donc, comme je vous le disais tout à l'heure, on en a 225 000. Donc on a 15 000 clients de plus et on transite 1 TWh de moins de gaz naturel. Donc je ne sais pas ce qu'il en est pour l'électricité. Je ne sais pas s'il y a eu aussi une amélioration de l'efficacité des équipements. Là, je fais allusion aux émetteurs radiants, si effectivement ils sont de meilleure qualité. Mais ça doit continuer. Et puis c'est aussi cette baisse de la consommation, elle passe forcément aussi par des changements de comportement. Il y a des gens qui peuvent toujours chauffer avec les fenêtres ouvertes. Prendre sa douche, on le sait tous, c'est moins consommateur d'énergie que prendre un bain. Mais il y a les personnes qui prennent leur douche en laissant couler l'eau pendant toute la durée de la douche. puis ceux qui interrompent l'eau chaude à ce moment-là. Et ce genre de petits gestes, si tout le monde le faisait, je pense que ça aurait aussi un impact assez significatif sur les consommations. Voilà, donc ça c'était pour la partie, et je n'ai pas été exhaustif, pour la partie baisse des consommations. Ensuite, donc sur la hausse des énergies, la hausse de production en local d'énergie décarbonée, effectivement, là aussi, Bordeaux Métropole Énergie, outil de la métropole, va s'atteler à cette tâche en faisant en sorte que le gaz naturel soit de plus en plus vert. C'est déjà le cas. Aujourd'hui, sur notre réseau, on a déjà une injection de biométhane dans le Nord-Médoc. Alors aujourd'hui, ça reste encore très anecdotique, hein, mais notre ambition, c'est d'ici 5 ans, c'est de transiter entre 8 et 10% de gaz dit vert ou biométhane sur le réseau de distribution. Donc, associé à une baisse des consommations de gaz qui devrait continuer normalement, on estime que la consommation, la tendance annuelle, se situe entre 0,9 et 1% de baisse de consommation de gaz. C'est en tout cas ce qu'on constate depuis une dizaine d'années. Au-delà de l'injection de biométhane, l'autre piste, c'est la production d'électricité renouvelable, donc à travers soit des projets de photovoltaïque, voire d'éolien. Il faut être ambitieux. Alors, c'est vrai qu'en Gironde, on va dire que l'éolien ne se prête pas trop, puisqu'on a un souci lié au massif forestier. Il faut avoir des mâts un peu plus haut que la forêt pour récupérer la force cinétique du vent. Bon, voilà. Et puis également continuer sur les réseaux de chaleur, que ce soit à base de biomasse, donc des chaudières bois, poursuivre l'expérience qu'on avait faite il y a maintenant une quarantaine d'années, poursuivre en fait des expériences de géothermie, puisque le sous-sol de la métropole a cette particularité d'avoir à une profondeur environ 900 mètres ou 1000 mètres de l'eau à environ 50 degrés. Qui certes n'est pas excessivement chaude, mais qui peut être utilisée pour chauffer des bâtiments et chauffer de l'eau chaude. Voilà ce que je peux vous dire en tant qu'industriel.
Merci. Il y avait quand même un certain nombre d'éléments déjà bien identifiés, côté le gaz et donc globalement aujourd'hui Bordeaux Métropole Énergie. Et finalement, la formalisation de ces chiffres en 2016, c'est pas non plus une découverte à ce stade. Par contre, ça peut réactiver ou relancer certaines dimensions dans les projets, notamment sur la géothermie, pour venir satisfaire finalement l'ambition affichée. Est-ce que, pour peut-être Jean-Pierre Williot, cette réaction ou cette adaptation ou cette approche même chromatique pour le gaz? Vous avez quelques commentaires, je pense, à faire sur ces aspects-là, le gaz vert par rapport au gaz bleu, noir. Mais peut-être d'autres commentaires aussi.
Je vais commencer par le gaz, puisque effectivement, je suis sans doute plus proche de mon terrain en présentant le gaz. Il y a une chose qui me paraît tout à fait claire dans ce qui vient d'être présenté, et puis qui renvoie aux deux présentations précédentes. C'est le fait que finalement l'acceptation d'une technologie, elle est fondamentalement liée à des contextes. On vient d'évoquer le fait que le gaz de schiste, s'il y en avait, sur le territoire de la Grande Aquitaine, on aurait pu l'exploiter. Donc évidemment, le contexte ne s'y prête pas, puisque pour des raisons que chacun connaît en France, le gaz de schiste n'est pas... une stratégie de développement gazière. Le contexte ne s'y prête pas, mais après tout, la rationalité économique aurait pu faire prévaloir l'utilité du gaz de schiste et aurait permis éventuellement de compléter les ressources. Si on fait un saut en arrière, on peut se reposer exactement la même question à Lac. Au moment de Lac, la question qui s'est posée était de savoir si on exploitait ou si on n'exploitait pas. La version américaine était de considérer que, compte tenu des difficultés d'exploitation du puits, il valait mieux refermer et laisser dormir ça tel que c'était. Le contexte n'était pas à refermer le puits en France dans les années 50, le contexte était à bénéficier de cet apport énergétique que l'on pouvait ensuite dont on pouvait ensuite faire profiter soit une grande région, soit le pays. Après, il y a eu des arbitrages d'aménagement du territoire. Mais le contexte se prêtait à tout sauf à refermer le puits. Donc là, il n'était pas question de faire abstraction de cette ressource. Si l'on fait encore un saut en arrière, au début du 19e siècle, quand la technologie pour produire du gaz manufacturé et modifier un certain nombre de comportements ou d'environnements urbains apparaissent, il n'est pas question de se priver de cette technologie nouvelle parce qu'il y a un certain nombre d'ingénieurs, d'entrepreneurs, de responsables, enfin d'édiles municipaux ou de villes qui considèrent que c'est une possibilité de transformer le cadre de la ville. Donc ça apparaît comme une technique qui permet d'entrer dans une certaine modernité urbaine. Il n'empêche qu'il y a quand même aussi des détracteurs à toutes les pollutions que l'usine à gaz produit, au risque qui est voisin du gazomètre. Et donc il y a quand même une perception qui peut être une perception critique. Or, que se passe-t-il ? Finalement, les voix critiques s'amenuisent, ou en tout cas ne sont pas nécessairement écoutées, et le développement de l'industrie du gaz manufacturé a devant elle à peu près une centaine d'années à développer ses atouts pour une consommation reliée au pouvoir calorifique ou au pouvoir éclairant. Donc finalement, dans toutes les occurrences que l'on peut prendre sur l'histoire gazière, et vous renvoyez à cette nuance chromatique gaz vert, gaz bleu, gaz noir, il y a un contexte qui détermine effectivement si l'on s'engage ou pas dans cette voie. Alors, cette notion de contexte, je pense qu'elle est très intéressante à illustrer. Je ne sais pas si je développe, mais si j'ai le temps de développer deux ou trois arguments ou s'il faut que je sois très bref. Parce que mes collègues et amis me livrer un exercice de schizophrénie, c'est-à-dire qu'ils demandent à un historien de commenter de la prospective. Donc ça veut dire que, en règle générale, le petit mot « si » ne nous est pas tellement familier. On a plutôt tendance à considérer que c'est comme ça, et voilà. Voilà ce que l'histoire...
Et si on se place dans un exercice d'uchronie ?
Ah, oui. Mais... Là, c'est il y a d'autres perspectives, mais c'est tout de même une reconstruction.
Bah, enfin, peut-être moi ce que m'inspire vos développements là, c'est de se dire est-ce que entre contexte et prégnance des imaginaires, est-ce qu'on peut effectivement se dire c'est des choix ? Est-ce qu'ils sont faits de manière consciente, inconsciente ? Je pense que François Caron en 1987, il utilise imaginaire au singulier. Je pense qu'en fait, on se rend bien compte qu'il y a différents types d'imaginaires. Et ce qui était acceptable, enfin, dans les arbitrages faits, notamment sur l'AC ou sur le gaz manufacturé fin 19e, ne le serait plus aujourd'hui. Exactement. Avec le gaz de schiste. Donc, sauf à ce que les autres intervenants veuillent réagir à ce stade, je vous demande de continuer.
Bon, alors, donc, je continue. Parce qu'il y a... Il y a quatre éléments qui m'apparaissent vraiment très intéressants dans toutes les présentations, qui ont été très courtes, mais très riches. Le premier élément, c'est la nuance que vous avez établie entre prospective et prédiction. Bon, il y a effectivement, lorsque l'on relit en historien un certain nombre de prévisions ou de prédictions que des économistes ou des écrivains divers formule pour annoncer ce que sera le futur, et quand on relie une fois le futur devenu passé, les remarques peuvent être relativement cruelles. C'est-à-dire que les prévisions ne sont pas toujours ce qui se passe effectivement, tout simplement parce que le contexte, l'atmosphère, les idées nouvelles, les mentalités changent, et donc il peut y avoir des orientations nouvelles qui font que ces prévisions s'avèrent être fausses parce que le contexte, et surtout le contexte économique ou le contexte politique, change complètement la donne. Alors cette notion de prospective, je la trouve très intéressante parce qu'elle essaye finalement de mettre en situation un certain nombre de scénarios avec une vraisemblance calculée ou scientifique, de manière à essayer de formuler des propositions. Alors, ça renvoie à une remarque que vous avez faite, qui est que le projet que vous présentez, il est conçu pour éclairer, et le terme qui me paraît le plus intéressant, c'est pour influencer. Donc ça veut dire qu'il y a derrière le projet soit une éthique, soit une prise de conscience d'un certain nombre d'enjeux, soit une volonté de pousser en avant une voie, et la prospective vient servir cette voie que vous suggérez. Alors on peut s'interroger pour savoir si dans le passé, cette même notion de prospective a pu exister. Je pense que certains industriels, au milieu du 19e siècle, avec un contexte qui était un contexte considérant que le progrès, la notion de progrès était associée à celle des sciences et à celle des techniques, pouvaient mettre en avant l'idée que des prévisions ou des recherches de technologies nouvelles pouvaient être portées pour améliorer un dispositif. Par exemple, dans le cas du gaz, je reviens au gaz, je trouve assez étonnant qu'en 1856, l'ingénieur qui est recruté au sein de la Compagnie parisienne du gaz pour surveiller un certain nombre d'évolutions de techniques propose au conseil d'administration de mettre sur pied un laboratoire et une usine expérimentale en disant texto, il faut absolument que la taille de cette compagnie, qui est la plus grande compagnie gazière du monde à ce moment-là, puisse être au courant de tout ce qui est nouveau et de faire des choix et des arbitrages en fonction de ces techniques nouvelles. Nous sommes à ce moment-là en 1856, c'est-à-dire juste un an après que la compagnie en question ait été formée. Donc cette notion de prospective, de perspective, ou de veille technologique aussi, parce que finalement les scénarios que vous proposez relèvent aussi d'une forme de veille technologique, suppose qu'il y ait une collecte de données permanente. Alors je pense que la situation actuelle transforme cette notion de perspective, de prospective et puis de réflexion sur des scénarios possibles, parce que la collecte des données, grâce aux techniques numériques et grâce à tous les atouts que l'on a aujourd'hui pour développer des big data, nous donne des instruments de réflexion et des mesures que les prédécesseurs n'avaient pas. Donc il y a des éléments d'arbitrage qui changent aujourd'hui et qui permettent peut-être de porter de manière plus précise, plus scientifique, des scénarios de prospective qui peuvent peut-être se réaliser justement parce qu'ils sont étayés. Alors ça renvoie à une autre question qui est celle de l'expertise. Parce que vous avez souligné qu'il y avait finalement un certain nombre d'intervenants qui participaient à l'expertise. Moi, j'ai envie finalement de rapporter cette situation que vous avez présentée à ce que pouvait être la situation dans laquelle se trouvaient les responsables municipaux au milieu du 19e siècle ou à la fin du 19e siècle. Les responsables municipaux, qu'ils s'engagent ou non vers une notion de choix de régie qui peut être régie intéressée ou régie directe, il y a là aussi des arbitrages qui ne sont pas les mêmes. Il y a des enjeux économiques qui ne sont pas les mêmes. Les responsables municipaux, ils sont confrontés à un certain nombre de décisions qu'ils doivent prendre pour administrer la ville et ils devront d'une certaine manière rendre compte de leur gestion, même si ça n'est pas l'élection qui va être la sanction de leur gestion. Ces responsables municipaux, dès le milieu du 19e siècle, s'organisent pour trouver des expertises en constituant des commissions, en faisant des voyages à l'étranger et en allant explorer. Alors, je pense que c'est vrai pour l'eau, c'est vrai pour le gaz, c'est vrai pour l'électricité, c'est vrai pour l'hygiène et la santé, c'est vrai pour le contrôle des fraudes alimentaires. Systématiquement, les responsables municipaux expédient dans les grandes villes européennes pour aller voir leurs alter ego, pour aller voir leurs pairs, avec la volonté d'avoir des informations qui vont permettre de faire des arbitrages ou éventuellement de trouver des modèles. Donc c'est une notion de collecte d'expertise qui finalement est quand même relativement ancienne. Là où l'expertise se déploie aujourd'hui sur des terrains nouveaux, c'est que justement la spécificité des réseaux qu'il faut mettre en place engendre des expertises qui sont forcément beaucoup plus pointues parce que les techniques elles-mêmes sont beaucoup plus pointues. Alors, cette notion d'expertise, elle peut aussi être mise en contradiction éventuellement avec les ambitions politiques. Parce qu'il y a quand même un acteur qui, dans tout ce que vous avez présenté, risque d'avoir le mot final. C'est peut-être pas lui qui devrait l'avoir, mais c'est peut-être quand même lui qui l'aura. C'est que c'est le politique qui va décider. Parce qu'il va décider à la fois des investissements, et il va décider aussi des enjeux qu'il accepte de porter pour le territoire dont il est un administrateur. Alors, est-ce que c'est le politique qui devrait avoir le rôle final ? On peut se poser la question de savoir si ce n'est pas le consommateur qui devrait avoir le contrôle final. Dans une démocratie éclairée, le consommateur devrait pouvoir être convoqué pour exprimer ses choix et ses préférences. Ceci étant, convoquer l'avis du consommateur, c'est impossible. On peut convoquer les consommateurs autour d'une table, on peut faire un débat public, et le débat public peut réussir. On peut citer en exemple les infrastructures de transport de GRT Gaz qui réussit à faire de grandes infrastructures de transport en ayant une prise de conscience sur l'environnement, un dialogue avec les élus, et fait passer un certain nombre de projets. Et on pourrait mettre en contre-exemple ce qui s'est passé avec le TGV Lyon-Marseille, où Pierre Izard, le responsable de l'époque, a des souvenirs un peu difficiles de la négociation avec un certain nombre d'acteurs pour pouvoir faire passer le trajet du TGV. Donc le débat public peut permettre aux consommateurs de s'exprimer. Ce débat public, cette démocratie participative, elle est de plus en plus réclamée, ou en tout cas elle est de plus en plus présente. Elle l'était beaucoup moins au XIXe siècle, soit parce qu'elle s'exprimait dans le vote, soit parce qu'elle s'exprimait dans des manifestations qui pouvaient aussi être beaucoup plus vives face au pouvoir municipal. Alors, le consommateur, il doit quand même être interrogé, parce que ça nous ramène à la présentation de François Caron, qui met au centre de son approche l'innovation. Mais l'innovation, elle n'existe pas. L'innovation, c'est bien, on est bien d'accord, et nous le savons tous, l'innovation, elle est bien différente de l'invention. L'innovation, elle ne fonctionne que si les consommateurs acceptent. Et que si les consommateurs acceptent de payer. Et si les consommateurs arbitrent et refusent de payer, eh bien la technologie, même si elle est porteuse de rêves, même si elle correspond à des mentalités d'une époque, cette technologie, elle ne passera pas la rampe parce que, justement, les consommateurs ne se l'approprieront pas. Du coup, ça pose la question de savoir quel est le rôle de l'industriel dans cette affaire. Et il me semble qu'il y a un mot que j'ai pas entendu. Alors, c'est un mot pour lequel j'ai la plus grande considération. C'est absolument pas péjoratif dans ma bouche. C'est le mot de marketing. Comment peut-on vendre ou comment peut-on convaincre les consommateurs de l'acceptabilité que vous avez évoquée d'un certain nombre de projets si l'on ne fait pas une étude scientifique du marché pour mettre ensuite en situation une pédagogie associée à la mise en place de cette technologie. Alors cet effort de pédagogie, il peut être fait par les responsables politiques pour expliquer leurs décisions, mais il doit être fait aussi par les industriels pour expliquer aux consommateurs pourquoi il est intéressant de consommer moins. Parce que c'est quand même une logique qui paraît un peu abrutissante pour un industriel d'expliquer aux consommateurs qu'il faut consommer moins. Toute la logique d'histoire économique du développement de la consommation montre que l'on a cherché soit à renouveler les produits, soit à développer de nouvelles stratégies de vente, soit à développer les réseaux. Les réseaux nous donnent un excellent exemple géographique du rôle des territoires et de l'extension progressive des territoires de réseau. Le réseau de gaz, au point de départ, c'est une rue. Aujourd'hui, ce sont des réseaux qui sont continentaux. Donc le développement, il procède bien par développement successif, en fait, et qui suppose, bien entendu, que l'on ait une pédagogie pour pouvoir expliquer aux consommateurs pourquoi le fait de consommer plus peut rentrer dans une certaine forme de confort pour lui ou d'intérêt pour lui. C'est un contre-discours que les industriels doivent porter aujourd'hui. Expliquer aux consommateurs qu'ils doivent consommer moins, c'est finalement le triomphe a posteriori de ce que vous avez évoqué, c'est-à-dire des défenseurs et des prosélytes de la croissance zéro, voire de la décroissance, qui est une forme de déclinisme. Alors après, est-ce que, par rapport à cette situation des années 70, on peut dire que c'est aujourd'hui que les mentalités et le contexte est mûr pour que l'on accepte ces idées-là? Là, c'est une autre affaire. C'est-à-dire que l'on n'est plus sur une vision décliniste, mais on est sur une vision de mise en contexte des mentalités par rapport à un certain nombre d'idées qui deviennent légitimes, alors que dans les années 70, elles pouvaient paraître beaucoup moins légitimes au regard de la pente de développement que l'on avait.
Merci pour tous ces éléments, parce qu'il y en a beaucoup. Je voudrais y réagir, pas vous piner de la tête, notamment Mathilde ou Nicolas. Je pense que il est. Voilà.
Oui, alors
que,
bah, oui,
il y a quelques réactions rapides.
Ça a été très très riche. Alors,
les intervenants, et puis après
points,
aussi.
La question du. C'est le politique qui va décider in fine, certainement. Dans les scénarios, nous, qu'on a étudiés, ce qui est intéressant, c'est que le politique n'est jamais représenté. On ne modélise jamais le politique et sa manière de prendre des décisions. Et c'est tout à fait naturel, puisque les scénaristes s'adressent au politique, souvent. Donc, vu qu'un scénario cherche à influencer le politique, il se met toujours à son niveau pour lui dire, bah, moi, à ta place, voilà ce que je ferai. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est que comme le scénario est un outil d'influence, on se place au niveau de la personne qu'on veut influencer. Donc on ne parle jamais du personnage politique dans les scénarios. Par contre, on va lui faire des recommandations à ce personnage politique. Après, ce qu'on va lui dire, en fait, il y a la question de l'expertise, des modèles informatiques, de la collecte des données, donc qui sont de plus en plus pointues actuellement. Cependant, ça, quand on lit un scénario actuel qui est sorti dans les 10 dernières années, on a l'impression que c'est très neutre. Il y a une apparence de neutralité. Et en fait, il faut vraiment aller chercher, vu que le système modélisé est extrêmement complexe, il est difficile de voir s'il n'y a pas une idéologie derrière. Et en fait, la neutralité, l'objectivité n'existe pas. Donc il y a forcément un groupe d'idées, c'est pas idéologie au sens négatif du terme, mais il y a un groupe d'idées qui sous-tend soit la construction du modèle, c'est ce que disait Mathilde, soit la manière dont le modèle est utilisé, en fait, par les hypothèses qu'on va lui rentrer. Et donc, cette recherche d'expertise, parfois, elle peut cacher des idéologies. Donc, nous, ce qu'on recommande dans notre guide de recommandation, c'est d'essayer d'être très transparent sur les intérêts de chacun des experts qui ont été consultés, et puis d'essayer d'avoir des panels d'experts les plus diversifiés dans leurs intérêts et idéologies. Donc, c'est pour essayer d'équilibrer tout ça et pour ensuite aller vers plus de neutralité et en tout cas poser les bonnes questions et pouvoir être transparent sur pourquoi on a fait tel et tel choix. L'idéologie n'est pas un problème en soi, simplement il faut être transparent sur le fait que j'ai choisi tel chiffre parce que je pense ça et ma vision du monde est celle-ci. C'est ça qu'on va pousser nous dans ce travail. Et alors les utopies qu'on retrouve souvent en fait dans les scénarios, parce que les scénaristes se projettent à 2050, donc quelque part ils ont des utopies qui sont apparemment neutres. En fait, quand on regarde les scénarios mondiaux ou transnationaux, ils sont basés sur des modèles très souvent macroéconomiques. Times fait partie, c'est technique économique. Et en fait, dans ces modèles économiques, effectivement, il y a certaines idéologies qui sont intégrées dedans, qui sont aussi dues à l'échelle, c'est-à-dire que les scénarios à grande échelle vont avoir du mal à décrire finement les comportements des gens, parce qu'il faudra énormément de données pour savoir comment les gens consomment dans telle et telle localité. Donc c'est des gros agrégats. On va dire la consommation mondiale, c'est une énorme moyenne. Donc il est impossible pour le consommateur de savoir exactement ce qui va lui arriver dans ce scénario. Donc il y a des grands agrégats. Il y a un autre grand agrégat, donc la consommation c'en est un. Un autre grand agrégat, ça va être l'efficacité énergétique. On en a parlé. Combien les gens consomment, donc on va dire c'est la consommation par tête, combien il y a de gens, ça c'est la population mondiale. Et l'efficacité énergétique, c'est-à-dire quand ils consomment un service, combien derrière ça requiert d'énergie. Et sur ces trois agrégats, on s'aperçoit que la population a toujours le même type d'hypothèse, ça croît. La consommation, bah, c'est le PIB, donc ça croît aussi. Et derrière, tout l'effort en fait est fait sur l'efficacité énergétique dans les scénarios mondiaux ou nationaux. Et donc ça veut dire que la transition, l'utopie derrière, c'est l'utopie de l'ingénieur et du marché. Donc c'est les deux acteurs de la transition majeure dans ces utopies, c'est l'ingénieur et le marché. Et donc il y a assez peu de réflexion sur la culture, qu'est-ce qui va devenir légitime ou pas. Ça c'est toujours un peu caché, quoi. Enfin, c'est un impensé en dehors de ces scénarios-là. Alors que quand on descend à des échelles plus fines, quand je regarde ce qu'a proposé Bordeaux Métropole, on voit que vu qu'on est beaucoup plus proche du citoyen, on va l'engager énormément plus. Donc on est sur des utopies où c'est les gens là sur le territoire qui vont beaucoup plus agir. Voilà les effets d'échelle et les acteurs impliqués dans les transitions et les utopies.
Moi, j'avais envie de revenir sur cette question de marketing. En fait, dans les derniers travaux du 21e siècle, qui porte surtout sur l'acceptabilité des énergies renouvelables, il y a un article qui est fondamental, qui est celui de Wüstenhagen et Tal, qui date de 2006, sur l'acceptabilité sociale des projets énergétiques renouvelables, et en fait qui décrit l'acceptabilité sociale de manière tridimensionnelle, avec une dimension de communauté, donc, qui est en fait l'acceptabilité sociale, souvent comme on l'entend, qui implique les citoyens, où on va avoir des manifestations contre le gaz de schiste, mais aussi contre les éoliennes. Et donc il y a également l'acceptabilité sociopolitique, donc qui est plutôt le contexte national, local, des décideurs. Et enfin, il y a un troisième aspect qui est justement cet aspect du marché, et donc qui se base beaucoup sur les théories de diffusion de l'innovation, et donc qui vraiment étudie ces questions de marché, mais effectivement, c'est quelque chose qui est pas forcément très étudié dans la littérature, et c'est dommage parce qu'en fait c'est fondamental parce que finalement il suffirait qu'on achète plus pour que ça se vende plus.
Si je peux me permettre juste un petit tiret supplémentaire, on pourrait se poser la question de la mise en œuvre de Linky. Par exemple, on ne parle pas beaucoup de Gaspard. Hey, est-ce que ça veut dire que les gaziers ont fait un marketing souterrain sur Gaspard en parlant pas, et que la volonté sur le compteur Linky d'essayer d'expliquer à des consommateurs à quoi ça pouvait servir? Je ne vais pas prendre position, mais il y a une question centrale de savoir comment ce qui est quand même présenté aussi objectivement que possible sous une forme d'une technologie nouvelle qui permet d'enregistrer des données et qui pourrait être une sorte, d'une certaine manière, de guide de la consommation, donc de faire passer un certain nombre de messages par cet outil. Au départ, c'est un outil. Manifestement, le positionnement de l'utilité n'est peut-être pas complètement abouti. Oui, parce que c'est une question que l'on pourrait se poser aujourd'hui, mais qui était finalement un siècle, un peu plus d'un siècle auparavant, la question que se posaient des consommateurs de gaz sur le compteur après paiement, qui existait en Angleterre sans manifestement de grandes difficultés, et qui en France, au moins dans certaines villes, peut-être pas de manière générale, mais dans certaines villes, a été systématiquement refusé. Les consommateurs préféraient avoir un abonnement et avoir une sorte de forfait qui indiquait exactement ce que ça allait leur coûter. Alors que certains avaient la perception que le compteur après paiement allait être un gouffre pour dépenser de plus en plus de gaz. Donc, est-ce que Linky, un siècle plus tard...
Je vais réserver mes réactions ou commentaires à notre conclusion partagée avec Rémi et Christophe, mais effectivement, il y a un sujet. Pour pas être trop long, même si on a déjà dépassé l'heure, est-ce que vous avez des questions pour nos intervenants ?
Merci, j'ai deux questions. La première, elle est pour Madame Tessier, c'est une question de méthodologie. J'ai compris que vous travailliez sur des tableaux Excel, mais j'ai cru comprendre que ce n'est pas vous qui remplissiez les tableaux Excel. Du coup, qui les remplit? Comment on les remplit? Et surtout, ce qui m'intéresse encore plus, est-ce qu'il y a un renouvellement des données? Parce que, en fait, ça bouge. Donc, en gros, reformuler, comment fait-on pour faire un scénario qui ne soit pas dépassé déjà, puisque les données ont évolué, au moment de sa publication? Et ma deuxième question, peut-être pour gagner du temps, je la pose dès maintenant, c'est à Monsieur Alves. Ça concerne les moins 40% sur les consommations d'énergie. On a dit qu'il fallait convaincre les consommateurs. Mais moi, ma question, elle est comment convaincre une entreprise de baisser ce qu'il va vendre? Et donc, en gros, comment faire pour qu'une entreprise accepte et promeuve quelque chose qui doit alors à moins d'argent à la fin? Voilà. Donc, est-ce qu'il s'agit de baisser les prix de production? Ça pourrait être une des pistes envisagées d'ici 2050. Ça peut être, bien sûr, augmenter les prix de facturation. Est-ce que c'est de s'orienter vers des nouvelles activités? Enfin, en gros, comment l'acceptabilité se fait aussi du côté de l'entreprise? Voilà. Vous parlez d'entreprise d'énergie, en général.
D'accord. Pour les gestionnaires de réseaux, les fournisseurs, à la limite, il y a moins d'impact.
Effectivement, c'est une bonne question. En tout cas, pour les gestionnaires. Hein. Je le répète, pour les fournisseurs, le problème est moindre, puisqu'il n'y a pas de... ce sont en général des entreprises beaucoup moins capitalistiques, ce qui n'est pas le cas des gestionnaires de réseau, que ce soit donc, des gestionnaires de distribution ou de transport. Votre question, effectivement, à peu près une remarque, c'est que quand on baisse le transit de l'électricité ou du gaz, effectivement... vu que les infrastructures sont les mêmes, mécaniquement, le coût d'utilisation, le coût d'usage de cette infrastructure va effectivement augmenter. Et ça me paraît fatal. Voilà. Et après, est-ce que c'est forcément une mauvaise chose? Je ne sais pas. Moi, je pense que vouloir de l'énergie décarbonée est peu cher. N'induit pas forcément de bons comportements chez les consommateurs. Voilà.
Alors effectivement, c'est pas moi qui ai rempli les tableaux Excel. En fait, il y a deux types de tableaux Excel. Il y a les premiers qui sont les entrants du modèle et les deuxièmes qui sont la sortie. Donc la sortie, c'est... En fait, on a le modèle TIMES et un modèle d'optimisation qui calcule. Et suite à ça, après, on a des logiciels qui permettent de remplir automatiquement les tableurs. Ceux qui sont en entrant, en fait, on va les chercher dans les sources de données de l'AIE, quand c'est au niveau national, du gouvernement, etc. Donc, effectivement, on a un souci sur la mise à jour des scénarios. Ça dépend vraiment de la taille des modèles. C'est-à-dire que moi, j'ai un co-doctorant qui travaille sur... un modèle de la région PACA, parce que le laboratoire est à Sofia Antipolis et pas à Paris. Donc lui, c'est plus facile d'avoir les données à jour, parce que le modèle est assez petit, donc il peut mettre à jour régulièrement ses données. Au niveau français, c'est encore assez flexible. Au niveau mondial, moi j'ai un modèle qui est avec une année de référence qui est 2010. C'est un travail de thèse de mettre à jour de 5 ans le modèle, tellement il y a de données. Et, voilà, moi et mon modèle met quand même au moins une heure à tourner, quoi. Donc il y a beaucoup de données. Et effectivement, ils sont pas forcément à jour, mais on le sait. Et après, ça donne vraiment des idées, des pistes de réflexion sur... qu'est-ce qu'on peut faire comme action politique derrière, qu'est-ce qu'on peut prendre comme décision. Mais effectivement, c'est pas précis. Et voilà.
Pour compléter ma réponse aussi, je voulais resituer ce que coûtaient en fait les coûts d'acheminement, transport et distribution dans les factures d'énergie, que ce soit électrique ou gaz. C'est environ 25-30% de la facture finale. Voilà. Et donc c'est cette partie-là, parce que le producteur, en général, c'est d'ailleurs pour le gaz, il est à l'étranger. Hein, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est la Norvège, les Pays-Bas, la Russie et l'Algérie. Donc ils vendront moins de gaz, mais c'est du gaz fossile. Pour ensuite le reste, c'est donc je viens de dire le coût de la molécule, mais vous avez ensuite les coûts de commercialisation et les taxes. Voilà ce qui constitue le total de la facturation. Et donc c'est qu'une partie, et c'est cette partie-là effectivement qui mécaniquement serait à la hausse.
Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui voudraient questionner ou pas ? Parce que je pense qu'on pourrait conclure après cette question et les réponses.
Donc voilà, moi ma question venait plutôt sur, même si ça rejoint un petit peu ce que vous avez dit, c'est-à-dire que vous avez beaucoup mentionné donc, le consommateur, mais vous avez assez peu parlé en définitive des entreprises. Or, si ma mémoire est bonne, et là je vous donne le chiffre de tête, si je pense me souvenir que plus de 80% de l'empreinte carbone vient des entreprises. Et on le sait aussi parce qu'une des pistes que vous aviez mis en avant était la consommation personnelle, mais tout ce qui fonctionne autour du boycott, à quelques exceptions près, ne fonctionne pas. Donc, j'ai envie de vous demander quelles seraient, dans ce cas-là, les réponses à mettre en avant vis-à-vis des entreprises.
Qui veut répondre ?
Voilà. Et ça sera la dernière excellente question.
Alors oui, sur le bilan carbone, le bilan des émissions ou d'impact des entreprises, en fait, ça dépend vraiment comment on compte. Est-ce qu'on alloue les émissions d'une entreprise au consommateur final ? Ce qui peut être, c'est une manière de compter. Si je fais mon empreinte carbone à moi, en fait, j'alloue aucun impact à une entreprise parce qu'in fine, j'ai consommé son produit ou son bien et donc ça m'est alloué à moi. Mais après, il y a d'autres méthodes de comptage qui sont utiles pour les entreprises pour qu'elles puissent voir quels leviers elles ont pour réduire leurs propres émissions. Donc si chacune de ces entreprises s'alloue son propre bilan, par exemple, si je prends la FNAC, c'est une entreprise qui est un distributeur, donc elle va récupérer de l'électroménager, des livres, des disques, etc. Puis elle va les revendre à l'aval, elle va les revendre à des consommateurs finaux. Ce qu'elle peut compter dans son bilan carbone, c'est par exemple le fait que tous les gens viennent en voiture, etc., en métro, jusqu'à la FNAC. Donc ça peut être une partie du bilan carbone de la FNAC, même si c'est moi qui conduis ma voiture. Et j'aurais peut-être pu choisir d'y aller en vélo. Et puis, il y a une autre partie du bilan, c'est sur la phase aval. Donc, elle va faire venir plein de produits. On pourra, à la limite, dire, vu que ça passe par la FNAC, dans le bilan de la FNAC, je vais aussi compter le fait d'avoir produit les CD, les livres, etc. Donc, je pourrais allouer aussi à la FNAC tout. Et en fait, ce qui va compter dans les bilans carbone qu'on fait, c'est l'utilité d'intégrer telle ou telle chose dans le bilan de telle ou telle entité. Est-ce qu'elle a un vrai levier d'action là-dessus ? Et ça, c'est quasi philosophique comme question. Et donc 80%, je ne sais pas trop d'où ça vient et ça dépend vraiment comment on compte. Quoi.
J'entends un peu ma casquette de prospectiviste. Effectivement, je trouve que donner la responsabilité des actions sur les individus, ce n'est pas forcément la bonne solution. Et pour moi, il y a un couple politique et industriel sur lesquels on peut agir. On peut voir par exemple sur les accords sur les CFC pour résoudre le trou dans la couche d'ozone, c'est une action politique qui a permis de contraindre les industriels pour qu'ils réduisent, pour qu'ils changent ce qu'il y avait dans les frigos notamment. Et des actions comme ça, c'est contraindre à la fois les politiques et parce que ou alors l'autre solution qu'on peut envisager, c'est montrer aux industriels qu'ils ont de l'argent à se faire avec la transition énergétique, parce que finalement je pense que c'est les deux gros moteurs qui fonctionnent pour être générateurs de changement au sein des entreprises. Donc c'est les deux, la volonté politique et les impacts économiques de la transition.
Allez, la dernière question.
Juste très rapidement, En fait, je me suis un petit peu interrogée sur les dernières interventions en tentant d'en parler d'acceptabilité sociale. Du coup, lorsque je vois qu'il s'agit de quelles utopies nécessaires, parfois j'ai l'impression que quelle est l'innovation nécessaire à faire passer à une société et à parler de marketing. Donc, il faut bref, ça part du postulat que cette innovation, donc produite dans un contexte, eh bien, est donnée toute terminée à un consommateur qui va devoir l'accepter et l'approprier, et que finalement elle a tous les torts de ne pas le faire et qu'il faut la convaincre de ça. Et donc là, je vous pose la question, est-ce que peut-être il serait bien de changer la manière dont est produite cette innovation et en intégrant d'autres formes de participation avec une montée en compétences par des apports de votre métier et de votre expertise de terrain, mais dont où le débouché de cette expertise peut-être partagé et non pas travaillé dans un laboratoire hors sol finalement et ensuite amené sur le territoire. Et du coup, mon autre question était aussi sur un scénario comme Bordeaux Métropole. Finalement, qui a participé à ce panel? Est-ce qu'on sait le profil des personnes qui ont construit ces scénarios? Pour avoir vu les appels passés, il me semble que c'est avec un appel large à participer, mais est-ce qu'à un moment on connaît le profil de ces personnes? Voilà, merci.
Alors, je vais me permettre de répondre à la dernière question un peu sur les quantitatifs. Et le fait que tout ça est très bien tracé dans les rapports, autant pour l'exercice Bordeaux Métropole 2050 que pour le plan d'action. Il y a les chiffres sur le nombre de réunions, les lieux, les typologies de participants. Et de fait, c'est assez large. Après, il y a des représentants du monde industriel, académique aussi, des associations, des institutionnels, des élus. Voilà. C'est un peu une sorte de mini-Grenelle. Et comme je le disais, sans flagornerie, il y a certains représentants de Bordeaux Métropole dans la salle, comme il y a une forme d'expertise dans l'animation participative. Après, pour ne pas monopoliser, parce que je vais reprendre la parole avec Rémi et Christophe, sur la manière de faire de l'innovation, et là c'est ma casquette Enedis en tant qu'animateur open innovation, comme on dit en bon français, moi je préfère le terme d'innovation ouverte ou collaborative. Il y a des méthodologies, mais qui existent depuis une vingtaine d'années, notamment aux États-Unis, pratiquées par les grandes entreprises comme Google et autres, qui sont justement... par exemple, le design thinking ou l'intégration aussi des utilisateurs, le fameux UX pour l'expérience utilisateur, user experience. Donc il y a des méthodologies beaucoup plus intégratrices et je ne vais pas être plus long que ça, mais on pourrait aussi parler d'appropriabilité plus que d'acceptabilité, qui est un peu asymétrique dans les termes. Et je repasse la parole.
Je ne veux absolument pas avoir le dernier mot, mais simplement c'est même pas une réponse, c'est un échange sur la notion de marketing, d'acceptabilité du consommateur, etc. Je pense que par rapport à des innovations que vous mettez en situation qui descendent du haut et qui sont imposées, il est effectif qu'il y a des innovations qui partent dans un autre sens, mais à un moment donné, ces innovations, si elles sont porteuses d'amélioration générale, il faut bien qu'il y ait un discours pédagogique pour pouvoir la faire partager par le plus grand nombre. Donc pour que ce discours pédagogique existe, il faut bien passer par un certain nombre d'éléments transmetteurs, et les éléments transmetteurs peuvent être notamment le fait qu'une analyse du marché rend nécessaire de savoir comment positionner cette innovation pour que le partage de l'idée neuve se fasse. Voilà, je pense qu'il faut vraiment prendre le sens, enfin c'est celui que je donnais dans ce que je voulais dire, hein, il faut vraiment prendre le sens de marketing au sens large, c'est-à-dire c'est pas uniquement une question d'imaginer quelqu'un qui est en train de concevoir un programme de vente qui va absolument chercher à imposer aux consommateurs. C'est aussi une démarche d'analyse du marché pour savoir comment faire partager la bonne idée.
Oui, sur la question de l'acceptabilité, effectivement, on voit dans la littérature que souvent l'objectif, c'est de comprendre le phénomène pour pouvoir l'éviter. Donc, le phénomène notamment d'opposition à différentes technologies. Et moi, ma démarche, c'est vraiment de comprendre le phénomène pour pouvoir le prendre en compte,
parce qu'on est quasiment certain que sur les scénarios qu'on va proposer, on aura de l'opposition à certains projets et que certains projets vont être annulés. Donc c'est vraiment ça l'objectif. Et l'autre chose qu'on voit aussi, c'est que quand on fait participer les citoyens, notamment aux projets renouvelables, c'est ça qui fonctionne le mieux en termes d'acceptabilité. Donc effectivement, co-construire les projets, c'est probablement une façon d'avoir moins de controverses et plus de démocratie participative.
Oui, petite remarque finale. Je pense que l'exercice de prospective, ça peut être un support justement de co-construction d'avenir possible. Donc là, ce qui a été initié sur Bordeaux, c'est une très bonne direction. Je pense qu'il faut que ça se poursuive. Et avec une approche multidisciplinaire, évidemment. Moi, c'est la première fois que je dialogue comme ça avec des historiens ou des sociologues. C'est super intéressant.
J'espère bien que c'est pas la dernière.
Donc, il faut dialoguer.
Merci, merci à tous. Merci aussi à vous. On va vous proposer dans quelques minutes une conclusion. Voilà. On a explosé notre budget tant comme notre société explose son budget carbone. Merci à toutes et à tous, et en particulier aux intervenants de la dernière table ronde qui était très très riche. Je voudrais d'ailleurs saluer la richesse des profils et des interventions. On a eu une diversité de points de vue, de méthodologie, de parcours. Je suis très content de ne pas avoir fait un colloque bordelot-bordelais. Et d'avoir eu des gens de plusieurs disciplines DSHS, et puis même un peu au-delà, hein, parce que les mathématiques ne sont pas vraiment une SHS. Pour résumer, en 1 minute 30, même pas en 1 minute, un peu quelques éléments forts, à mon avis, à retenir de ce colloque. D'abord, on voit bien que l'histoire est extrêmement pertinente pour éclairer notre compréhension des enjeux actuels de l'énergie. Et pour permettre ce jeu d'échelle entre les époques, entre les territoires, les espaces, qui permet de voir les différences, les caractéristiques générales, et d'essayer de voir les points de divergence, à quel moment on s'est mis dans ces modèles-là, dans ces systèmes énergétiques. Un autre point que je voudrais souligner, c'est que malgré la technicité et l'importance de l'économique chaque fois qu'on parle de la question énergétique, ce qui est bien ressorti dans chacune des interventions, c'est le poids du politique. Le politique est un acteur de premier rang sur la question de l'énergie. Les organisations sociales, on l'a montré ce matin, ont un rôle à jouer à la fois sur l'accès et la mobilisation de ces ressources. Enfin, je voudrais remercier à nouveau tout le monde pour le dialogue qui s'est enclenché entre diverses disciplines, et vous faire part de ma très grande satisfaction pour moi, doctorant qui commence sa troisième année sur un sujet d'étude qui a beaucoup d'informations mais peu de possibilités pour les partager, d'avoir pu diffuser un peu ce savoir historique en construction, et de pouvoir aussi l'enrichir avec toutes les réflexions qui ont été faites aujourd'hui. Voilà, merci à toutes et à tous. De mon côté, pour à la fois la vision d'industriel Enedis et de co-coordinateur avec Christophe, aussi un peu en réaction à la dernière table ronde, alors, pour la question de Jean-Pierre Williot sur Linky, la question du positionnement de l'utilité, on a la chance d'avoir depuis quelques semaines maintenant le rapport de thèse d'Aude Danieli, qui a travaillé sur la mise en société du compteur Linky, qui est disponible sur Internet. On pourra le rendre aussi, pointer cette information, parce que toute information publique n'est pas forcément connue. Donc très intéressant sur justement l'asymétrie et les rapports d'acteurs. Dans la structure même de son rapport de thèse, elle parle des entreprises qui sont tout en haut, certains autres acteurs qui sont sur le côté, et les foyers qui sont tout en bas. Donc il y a une forme de verticalité de l'information et de la manière même de concevoir le compteur et son usage.
Donc après, je ne vais pas faire le débat là, on pourra faire d'autres colloques, comme le disait Rémi, sur la manière de se l'approprier, l'enjeu des données. Là aussi, il y a beaucoup d'imaginaires, utopiques ou dystopiques, avec une réglementation en train de se faire, mais bien souvent, elle arrive après. Il faut des premières controverses ou des usages heureux ou malheureux. Un complément aussi, autre rapport de test tout à fait intéressant lié au projet Solène d'expérimentation des compteurs Linky à Lorient, le rapport de thèse de Morgane Innocent dans le programme, et plus globalement l'ergonomie, y compris des interfaces, et notamment ça c'est quelque chose sur lequel on va tâcher de continuer à travailler dans la chérie 7 pour des... Il y avait 900 foyers équipés du compteur Linky à Lorient, accompagnés non seulement par des ingénieurs techniciens, développeurs d'interfaces, mais aussi des ergonomes et des sociologues. Un certain nombre s'avère être amotivés, donc aprivatifs. Hein. Comment ça se fait que quand on leur met à disposition, ça ne les intéresse pas, ils ont peut-être l'attention ailleurs. J'en profite du coup pour aller rebondir. Je pense que Nicolas Rayard aurait pu parler quand même dans l'exercice qu'ils sont en train de faire. Ils analysent la notion de désirabilité. Donc je fais le lien avec le marketing, parce que bien souvent, on achète et on consomme ce dont on a envie. Donc il y a des travaux tout à fait intéressants là, d'un point de vue numérique sur la captologie, discipline enseignée maintenant à Stanford dans le laboratoire de persuasion, par lequel sont passés certains des patrons des Instagram et autres GAFA. L'idée étant, ou alors autre exemple tout à fait récent, le succès de Fortnite qui fait des centaines de millions d'euros. Il y a une Française qui s'appelle Célia Audent, docteur en psychologie cognitive sur la petite enfance, qui est aujourd'hui indépendante et qui fait du conseil sur l'UX design, donc l'expérience utilisateur. Et il y a certains travaux tout à fait intéressants sur notamment les récompenses aléatoires. C'est connu depuis les années 30 hein, dans certains labos américains là aussi, avec des souris qui appuient sur des boutons, qui mangent pas. La satiété n'étant pas tout à fait satisfaisante, et ben, quand on crée de l'aléatoire dans la fourniture de résultats, c'est bien plus mobilisateur, et donc on y revient. C'est exactement les systèmes qui sont utilisés dans les likes. Voilà. Si personne n'a regardé la publication que j'ai fait sur le réseau, c'est-à-dire personne m'aime. Voilà. Donc, il y a aussi le livre de Bruno Patino, La civilisation du poisson rouge, qui est tout petit. Hein. Lui, il est directeur éditorial aujourd'hui chez Arte. Donc ça, c'est le côté ubérisation, numérisation des médias, qui est tout à fait intéressant aussi. Et donc, pour conclure mon propos, donc, merci aussi évidemment à tous. Sur l'influence, qui est une forme de marketing. À souligner, il n'est pas présent aujourd'hui, mais les travaux de doctorat en ce moment sous la direction de Christine Bounot, de Jordan Provost sur les think tanks de l'énergie. Et je trouve ça tout à fait intéressant de, non seulement d'informer, mais d'assumer le fait d'influencer. Je pense que ça aussi, il y aurait beaucoup de choses à dire, on n'a pas le temps maintenant, mais sur le fait d'assumer le fait de jouer l'influence. Et là, votre président du Shift, Jean-Marc Jancovici, le dit aussi très bien dans ses interventions devant des étudiants ou d'autres... notamment quand on le regarde sur YouTube, même s'il y a un coup de CO2. Et là, je recommande à tous la lecture du rapport du Shift qui a quelques mois sur l'impact énergétique des vidéos et du numérique. Je l'ai mentionné ce matin, mais je le rementionne parce que Nicolas n'était pas là. Et pour finir, donc, dire que sur la question de l'acceptabilité ou de l'appropriabilité, il y a donc cette économie de l'attention. C'est assez récent dans la discipline économique, j'en suis pas spécialiste, donc j'en parle d'autant plus à l'aise. Mais c'est certainement très intéressant à voir sur les questions de non-motivation ou de désintérêt pour des enjeux très importants. Et donc, en un mot, l'économie de l'attention, qui a été formalisée il y a quelques... Enfin, voilà, un peu en lien avec le monde Internet, c'est que ce qui est rare et donc cher aujourd'hui, c'est plus tellement les biens et les services, c'est l'attention qu'on veut bien leur consacrer. Et là-dessus, le professeur à la fois de littérature et philosophe Yves Citon, il évoque le fait qu'il faut savoir choisir ses annihilations, puisque Nicolas disait que rien n'est neutre, il n'y a pas d'expertise neutre, le tout c'est de bien choisir, voire de mixer ses aliénations et ses influences. Merci.
Dans ce trio, donc les derniers mots, d'abord félicitations à la patience des derniers auditeurs, tout particulièrement des étudiants. Félicitations surtout à la cheville ouvrière et conceptuelle, mais j'insiste, c'est un terme noble. J'en ai parlé avec Christophe Luc Robin, qui m'a dit que vous devriez être encore plus ouvriériste, que vous l'avez montré en caractère noble. La conscience donc ouvriériste, c'est vous qui véritablement avez porté ce colloque, et cette thèse s'annonce fort bien. Votre travail n'est pas terminé, puisque votre énergie déployée je ne sais pas si elle est primaire, j'espère qu'elle n'est pas finale, vous la déployez demain en prenant votre casquette, non pas de prolétaire, intellectuel, ni d'ouvrier, mais de guide du patrimoine industriel, une action très très originale à l'échelle nationale, puisque c'est le patrimoine gazier et électrique de Bacalan, avec quatre groupes, notamment un groupe avec des académiques en particulier, qui commencera dès 10h, donc vous allez vous épuiser à la tâche. Donc, deux minutes. Donc, ce colloque, son originalité, c'est la notion de bassin qui doit être retravaillé. Donc, ces formes de territorialisation, le célèbre local, on a retrouvé en permanence le mythe, l'obsession de l'isola, de l'autonomie, du petit, small is beautiful, mais surtout, c'était souligné par les questions, cette question de la territorialisation, c'est la question, l'économie, c'est d'abord l'organisation. L'économie, c'est d'abord le rapport entre le tout et les parties, quelle est donc cette échelle, quelle est cette articulation des parties. Et on a vu à l'œuvre l'économie de la concession. On a vu à l'œuvre, donc, concédant, concessionnaire, la question, le droit public, il aurait fallu des intervenants de droit public, la question droit public, droit privé, donc ces éléments qui sont tout à fait déterminants. Et on a vu avec les apports, alors si quand même la diversité des générations, l'effort de mixité, parce que la parité, on en est très loin, quand on a vu, on a eu un effort donc, de mixité, mixité interdisciplinaire, et surtout on a vu depuis Grenoble et au-delà, on a vu que le rôle des TEPOS, quand on sera les historiennes des TEPOS, ça sera donc fort bien. Et il est normal, là j'ai... que l'historien dans cet exercice donc solipsiste de réflexion sur la prospective, je rappelle qu'il existe un institut des futurs souhaitables qui est animé en particulier donc par des historiens avec ces exercices qui sont donc tout à fait passionnants. Donc merci beaucoup, ce n'est qu'un au revoir, on espère, Rémi, certains nous ont annoncé donc d'autres colloques, d'autres manifestations, la chaire recette est sur le terrain en permanence. Sur le terrain, en Nouvelle-Aquitaine, en France, en Italie et dans l'espace peut-être demain. Voilà, merci beaucoup.